Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1961-1962, les 9 premières séances du cours La Tentation. Aujourd'hui, La Tentation et le nihilisme moral, enregistré le 12 février 1962.
En parlant la semaine dernière du polymorphisme de la tentation, nous comparions l'ataraxie du sage et l'ataraxie du saint, celle des stoïciens et celle de saint Antoine en proie aux tentations. Et nous montrions la différence qu'il y a entre eux, c'est-à-dire une résistance, une ataraxie dans l'adversité et dans le malheur, dans les épreuves du malheur, et l'autre qui est une adversité, une apathie ou ataraxie, au contraire, dans la volupté. Si bien que les orages dont parlent les théologiens et les prédicateurs ne sont plus, comme chez les stoïciens, les épreuves de l'adversité, mais ce sont les orages de la sensualité. Et inversement, la défaite de l'homme n'est plus, comme chez les stoïciens, une défaite de la force d'âme, la force d'âme qui se laisse abattre et qui perd courage, mais c'est une capitulation devant la volupté, ce qui est donc l'inverse. Mais dans les deux cas, d'ailleurs, c'est une défaillance de la sérénité, une défaillance de l'équanimité, bien que sérénité soit prise ici dans deux sens différents, de manière différente. Bref, il s'agit d'une épreuve qui est bien une épreuve, si vous voulez, comme chez les stoïciens, mais une épreuve toute différente, c'est l'épreuve de la jouissance espérée, escomptée, c'est le supplice de la convoitise, car il s'agit cette fois, c'est une épreuve inédite, n'est-ce pas ? C'est une épreuve des temps modernes, l'épreuve pour l'homme des temps modernes. Il s'agit d'étouffer le libre arbitre sous les roses et de l'étouffer dans les parfums, ce qui est bien l'inverse de ce qui se passait chez les stoïciens. Mais c'est surtout une épreuve pour la liberté et pour la liberté seule. Il ne sera pas dit, et à cet égard, on peut dire que, enfin, l'image de l'homme imperturbable parmi les épreuves, et notamment parmi les assauts de la volupté, comme le Saint-Antoine, des tableaux qui représentent sa tentation, notamment celui de Bosch, dont j'ai longuement parlé la semaine dernière, dont je reparlerai un peu aujourd'hui. Ce sage, eh bien, qui symbolise devant nos yeux la résistance à ces assauts, eh bien, il ne sera pas dit que sa volonté soit à la merci d'une impression fugitive, soit à la merci d'un sourire, d'un clin d'œil. Il ne sera pas dit qu'un parfum suffise à l'accrocher, qu'un sentiment suffise à l'entraîner, qu'un fruit d'or suffise à la faire dévier. Et car l'homme est un être raisonnable, et dans l'idée de la résistance à la tentation, il y a la croyance justement à la vertu de la raison. L'homme est un être raisonnable, c'est-à-dire un être de temps, un être de soucis, qui ne peut pas être à la merci des conjonctures, qui n'est pas le jouet des conjonctures. Dans un des tableaux qui représente cette tentation, car il y en a plusieurs, comme je l'ai dit, il y en a un, je crois que c'est celui d'Utrecht, mais je n'en suis pas sûr, dans lequel on voit que saint Antoine a devant lui une montre, qui est le symbole du temps. Bien entendu, cette montre signifie le rappel à l'ordre de la brièveté de la vie. Elle signifie que la mort se rapproche et que la sainteté a toujours été, la sagesse même, ont toujours été liées à cette prise de conscience de l'approche de la mort. Mais il serait beau, c'est peut-être pas le cas, mais enfin pour notre propos, il serait commode, il serait beau que cette montre puisse signifier aussi autre chose encore, qui est le principe de la pérennité chronologique, chronique, le principe de la continuité chronique, de la permanence raisonnable, par conséquent de la fidélité et de la confiance, puisque c'est un peu le même mot. Le principe du temps, c'est le principe de la confiance, de la continuité à travers le temps, qui relie entre eux les instants de la durée, et qui, par conséquent, représente la résistance de l'homme à ces impressions qui vous font dévier, à l'impressionnisme de la tentation. Car en parlant de son polymorphisme, c'est comme si nous parlions un peu de l'impressionnisme, à savoir du décousu, de l'instantanéité, de la pulsion, auquel la raison oppose au contraire sa prévoyance. Voilà peut-être ce que signifierait, si, vraiment, Le peintre avait pensé à mon cours, n'est-ce pas? Le principe de la montre qui représente le temps, le principe du temps. C'est que l'homme lucide, l'homme qui résiste à la tentation, préfère toujours la lumière de la vérité. Il préfère la lumière de la vérité au clignotement et au scintillement des impressions sensibles, et notamment à ces scintillements du vice, et à ces clignotements du vice qui fait briller ses mirages dans la nuit. Comme brillent des gemmes et des pierres précieuses. Telle n'est pas la lumière de la vérité, qui, elle, est plus claire que le jour à midi, comme dit Spinoza. Et ce sont justement ces clignotements et ces scintillements dont nous avons souvent parlé qui empêchent la concentration attentive. De la même manière, on pourrait dire, en transposant d'un sens dans l'autre, mais ça reviendrait au même, que l'homme préfère la voix de la vérité. N'est-ce pas? Vox veritatis, la voix de la vérité qui est univoque et qui du reste n'est pas une voix braillarde. Et il préfère cette voix aux chuchotements innombrables, aux appels dans l'ombre, qui sont les appels du vice, aux invitations. Aux invitations dans l'ombre. Et la voix dont j'ai quelquefois parlé, qui appelle le moine de Pushkin, dans la Roussalka, qui lui dit « Viens à moi », cette voix n'est pas la voix de la vérité. C'est pas comme ça que parle la vérité. Elle dit pas des choses pareilles, et surtout à des moines. En tout cas, ce ne sont pas des chuchotements. Ainsi, de même qu'il y a une opposition entre la lumière, cette lumière Lucet Meridiana Clarius, qui est plus claire que la lumière méridienne, et les clignotements dans l'ombre, de même, il y a une différence entre cette voix univoque, cette voix simple et claire, et ces chuchotements dont nous parlions. Eh bien, c'est là que nous voyons bien le rôle de dispersion et de distraction que joue la sensibilité, et à quel point nous avions probablement raison d'étudier à part ce polymorphisme, et pour l'instant d'une manière indépendante du temps. Je disais que cette dispersion, cette diaspora de la sensibilité gêne la concentration attentive. Cette concentration qui est aussi nécessaire à l'oraison qu'au discours, qu'au raisonnement mathématique, qui est aussi nécessaire aux croyants qui prient qu'aux mathématiciens, est une des raisons pour lesquelles l'attention, la culture, le culte de l'attention faisait partie au XVIIe siècle d'une méthodologie de la vie religieuse autant que d'une méthodologie de mathématique ou géométrique. Et autant de Malebranche, par exemple, et c'était une des raisons pour lesquelles Malebranche et ses contemporains mettaient au banc de la raison la sensation et l'imagination, parce qu'elles sont principes de distraction et de dispersion, principes de diaspora à leur manière. Eh bien, ce dont nous parlons maintenant, ce n'est pas évidemment des géomètres ni des mathématiques que le bourdonnement des mouches empêche de raisonner, auquel le raisonnement des mouches empêche de se concentrer. Ce dont nous parlons, évidemment, c'est une diaspora diabolique. C'est une dissémination qui est voluptueuse, qui n'est pas simplement un appel à la distraction, comme les papillons qui volent, le printemps et les nuages par les fenêtres, qui empêchent les écoliers de suivre le discours du maître, mais il s'agit des appels de la volupté qui, eux, nous distraient de la prière, des pieuses lectures. Il y a donc un parallèle, comme vous voyez, un parallélisme plutôt, entre, d'une part, les impressions sensibles dans leur multiplicité et la concentration attentive exigée par le raisonnement, par l'effort réflexif, et d'autre part, les appels multiples de la volupté, qui sont tout naturellement au pluriel, et cette concentration que suppose l'oraison, la prière, et tout simplement le recueillement religieux, avec les promesses de volupté. Et par conséquent, nous comprenons aussi mieux le personnage central, enfin pas central, parce qu'il est justement dans un coin, car il tient peu de place, la vertu tient un peu de place à côté du pluriel et du polymorphisme de la tentation. Nous comprenons mieux, dis-je, le rôle de la nature même de la résistance que cette tentation développe. Il s'agit pour l'homme tenté par le pluriel de se réfugier au centre, de se pelotonner, pour ainsi dire, par le recueillement. Et on dirait même que, sans l'avoir voulu expressément, le mot du recueillement, par l'image qu'il nous suggère, fait penser à cette conscience qui se fait petite, qui se tapille en quelque sorte pour occuper le moins de place possible. Et c'est un appel à l'unité de l'esprit et à la simplicité de l'esprit, de façon à ce que l'homme ne donne pas de prise au diable, lequel est pluriel, lequel est légion. Pour que le diable n'ait pas de prise sur moi, eh bien il faut d'abord que je me fasse tout petit, que je me tapisse dans le fin fond dans le fin fond de mon fort intime, de mon fort intérieur, de ce qui est le plus intérieur dans l'intériorité, et qui est l'intimité de ce fond. Ou encore, si vous préférez, d'autres images qui reviennent au même, et qui feront davantage penser, par exemple, à Saint-François de Sales, que je me hisse à la fine pointe de l'âme, dans cette cime de l'âme, laquelle est très effilée, et dans laquelle, si l'homme s'y arrive à s'y maintenir, il n'offrira pas de prise au mirage, et il sera non aussi moins vulnérable à ces harcèlements, à ces coups dont on parle sur tous les tons, les théologiens. Et se faire en même temps, pour se faire en même temps, aveugle et sourd à tous les prestiges. Eh bien, il est à noter, mais nous l'avons déjà fait en passant, au début de ces leçons, au début de la précédente plutôt, que ces sentiments multiples et ces clignotements, bien que le polymorphisme soit essentiel à la tentation, ont malgré tout une unité paradoxale, une sorte d'unité spirituelle un peu dérisoire, qui est sinon leur unité, tout au moins le commun dénominateur des tentations. Le tableau a beau être dont nous avions parlé, ce tableau des tentations a beau être un tableau décousu, ou comme nous disions à Scherzo, à Scherzo transposé en peinture, malgré cela, il y a quelque chose qui est commun à ces musiques mielleuses, à ces appels de la volupté à tous les sens, à la diversité des incognitos, et aux parfums, aux sourires, aux sirops, enfin à tout ce qui est très trop suave et trop doux, bref, aux formes polymorphes du mal. Et nous l'avons du reste dit involontairement, ces appels discordants et sataniques à travers la diversité des incognitos, eh bien c'est, nous pensons que c'est le mal. Il doit y avoir donc une unité qui est le mal, et que la conscience populaire, primitive, manichéenne, hypostasie sous la forme du diable, le diable est l'hypostase manichéenne qui représente l'unité de cette diversité. Seulement, bien entendu, ça, c'est une représentation populaire d'imagerie d'Épinal, en vérité, le diable n'est pas l'unité de la diversité sensible et tentatrice, de la même manière qu'il y a une unité synthétique de la connaissance chez Kant, par exemple. Ce n'est évidemment pas une unité, une synthèse kantienne, la synthèse de la diversité. Il n'y a pas de synthèse. Il n'y a pas de synthèse. Simplement, il y a derrière ces déguisements, il y a un mauvais conseiller, une mauvaise volonté qui souffle le mal de la même manière de tous les côtés, quoique à travers des formes différentes. Et par conséquent aussi, on ne peut pas dire que ce mal ou ce diable soit vraiment un principe, car il ne peut y avoir de principe que de l'être et du bien. C'est un principe à l'envers, un contre-principe, un arché à l'envers, mais pas vraiment un principe, qui est pas paradoxalement préposé à cette multiplicité pourtant irréductible, simplement en ce que elle est il est l'aspirateur de la pluralité mauvaise, le conseiller du vice, un génie, le génie de la division. Le génie de la division, paradoxalement intéressé à désagréger le mauvais ange, si vous voulez, paradoxalement intéressé à désagréger l'unité de l'homme. On peut dire un esprit à l'envers pour fixer les idées, bien qu'un esprit à l'envers soit justement ne soit plus un esprit, puisque c'est même le contraire de l'esprit. Mais comme nous ne pouvons nous représenter que l'unité à partir de l'esprit, et que le principe comme un principe du bien et de l'être, nous représenterons en quelque sorte l'unité de cette pluralité mauvaise comme un principe à l'envers, bien que ce ne soit pas du tout un principe, comme un génie du mal, bien que ce ne soit pas un génie, et comme un esprit inversé, bien que ce ne soit pas un esprit. Voilà donc, malgré tout, une unité derrière les scherzos diaboliques dont nous avons parlé amplement la semaine dernière, à propos même du staccato, du pizzicato, n'est-ce pas, de la dispersion, et mauvaise conseillère, des Mephistovals, n'est-ce pas, qui sont les Mephistovals comme chez Liszt, qui en a écrit 4, tellement ça lui plaisait, d'écrire la danse à l'envers, la danse du diable, n'est-ce pas, cette danse qui n'est pas faite de continuité, de grâce, mais qui est une danse faite de sautillement décousu, qui est un scherzo diabolique. Eh bien, ces scherzos ont quand même, vous le voyez, une espèce d'unité, et seul capable de désagréger l'unité du vrai et du bien. Et pour cela, alors, on nous montre de quelle manière le tentateur s'assure toutes sortes d'auxiliaires, de concours, d'alliés, coalisés contre l'homme. L'idée de la tentation, chez les hommes, les âmes superstitieuses, et qui sont probablement un peu trop intéressées à augmenter le côté exogène, exogénique de la tentation, l'idée de tentation est toujours liée un peu à celle de complot. de conspiration. Il y a une conspiration. Le diable multiple et les alliés qu'il a, qu'il recrute autour de lui, et qu'il rallie autour de lui, la petite souris que voici, la femme que voilà, et encore un serpent, un crapaud, un tronc d'arbre, une cafetière, un instrument ridicule, comme il y en a sur les tableaux de Hieronymus Bosch, n'est-ce pas, et comme il y en a dans les croyances à la magie et à la sorcellerie. Ce sont les alliés disséminés, c'est la pulvérisation, l'atomisation, en quelque sorte, de ces alliés qui prolifèrent autour de l'homme pour prêter leur concours au diable. Une coalition hétéroclite. Une coalition hétéroclite liguée contre l'unité de l'esprit. Voici donc le principe de l'unité, l'homme 1, qui a bien du mal à défendre sa simplicité et son unité aux prises avec le pluriel diabolique et démultiplié à l'infini, avec ce pluriel qui est légion. Mais surtout, comme nous l'avions dit en passant la dernière fois, en commençant l'étude du polymorphisme, et comme il sera temps de le rappeler maintenant en la concluant, en la terminant, rien n'empêche que le pluriel, disais-je, soit en lui-même une tentation, finalement. Il est si vrai que, en somme, cette tentation est au pluriel, la pluralité est si naturellement sa forme, est tellement sa forme naturelle et normale, que finalement, l'homme finit par être tenté par le pluriel en lui-même, disions-nous, indépendamment de la question de savoir quelle est la chose au pluriel, quelle est la chose qui est au pluriel. Et finalement, c'est donc la diversité en soi qui est tentante et qui est une tentation pour le monisme, n'est-ce pas, pour l'unité. L'unité est instable, elle ne reste pas longtemps une, mais elle tend toujours à se pulvériser. Nous verrons cela plus amplement quand nous étudierons, dans une deuxième partie, la tentation dynamique, active, celle dont l'homme prend l'initiative. D'ailleurs, on pourrait montrer comment, dans beaucoup de philosophies, comme par exemple l'émanatisme de Plotin, et dans une certaine mesure aussi le bergsonisme, le pluriel est en lui-même une tentation, indépendamment de la volupté et du chant des sirènes, qui ne joue pas un grand rôle chez Plotin, après tout, et encore moins chez Bergson. Et il ne s'agit pas des appels et des clins d'œil de la volupté, mais il s'agit simplement du pluriel en lui-même. Dans le langage de l'émanatisme, on expliquerait aisément de quelle manière l'âme concentrée dans sa tension extrême, notamment lorsqu'elle est aux abords de l'un, de Dieu, lorsqu'elle est sur le seuil du sanctuaire, est tentée, si on peut employer ces deux mots qui font calembour, l'un à côté de l'autre, elle est tentée par la détente. Elle est tentée de se détendre. Elle est tentée de s'éparpiller. Il y a donc une tentation du relâchement qui est essentielle à la procession des hypostases et qui est des explications, en général, de la procession. Et l'âme se laissant tenter jusqu'à l'éparpillement au dernier degré, qui est l'éparpillement de la matière. Et d'ailleurs, cette tentation, et si bien une tentation, n'est-ce pas, cette envie qu'a l'âme, en général, l'esprit, l'hypostase supérieure, à devenir moins dense, à s'éparpiller, à devenir âme quand elle est esprit, à devenir matière quand elle est l'âme, et finalement rien du tout, le néant, le mal, quand elle est la matière, eh bien, cette tentation, et disais-je, et cette envie, est si bien une tentation que Plotin emploie même, pour la désigner, des mots qui font penser à la magie, qui font penser au chant des sirènes, à la fascination hypnotique. Il dit souvent que l'âme est hypnotisée, fascinée, en se servant du verbe goethein, qui veut dire enchantée par des sortilèges. Le goès est un charlatan. Et qui ressemble un peu à la fascination du serpent. Il n'y a pas de serpent comme dans la Genèse, chez Plotin, mais malgré tout, le serpent est bien un goès, un charlatan, qui nous regarde dans les yeux et nous fascine. Donc il y a un lien entre la fascination hypnotique, la fascination serpentine, de la volupté qui me regarde dans les yeux et l'envie que l'homme a de devenir un être plural, à être au pluriel et à se détendre. Voilà donc l'une des explications de cette inclinaison vers la matière. Et on trouverait un peu la même chose chez Bergson, enfin mutatis mutandis, bien entendu, mais on trouverait aussi la tentation de l'éparpillement, quoiqu'il n'emploie pas volontiers ce mot théologique de théologie morale de la tentation, et on trouverait aussi, ce qu'il y a de plus caractéristique chez lui, le mot néoplatonicien de fascination, la conscience, l'élan vital. L'élan vital est fasciné par la matière et est toujours enclin à rester sur place au lieu d'aller de là
l'avant a tourbillonné sur place. Il est donc, lui aussi, il est fasciné par ce principe qui, chez Bergson, s'appelle l'extension, s'appelle la spatialité, le morcelage verbal, le morcelage discursif. Il est tenté à la fois par le pluriel social, par le pluriel grammatical et verbal, qui est celui du discours. Il est tenté par l'extension et par le morcelage dont l'extension est le principe dans l'espace, et par conséquent, il abandonne sa tension à son tour en s'inclinant. Et on y trouverait aussi l'idée du tournoiement, qui est très importante pour nous, et à laquelle j'attribue tant d'importance que nous y reviendrons en parlant du rapport entre tentation et séduction. Le tourbillonnement et le tournoiement. Et l'élan vital tourbillonne sur place, dit Bergson, au lieu d'avancer. Vous voyez donc, lorsque on nous met en garde, et pas seulement les théologiens, mais également le philosophe néoplatonicien, et également le bergsonisme, lorsqu'on nous met en garde contre les sirènes de la diversité, et, ou comme disent les philosophes modernes, du morcelage, on a en vue cette désagrégation de l'unité de l'esprit, par le désir aussi du renouvellement, et qui est probablement une des formes du néant, n'est-ce pas ? En réalité, l'homme est tenté par le néant lorsqu'il est tenté par la diversité, lorsqu'il est tenté de quitter l'unité, puisque l'émiettement, la division, la perte de l'unité est une des formes approximatives sur lesquelles l'homme éprouve le néant. La division est une espèce de nihilisation, mais une nihilisation relative. Donc, l'homme est de nouveau bizarrement tenté par la mort, en réalité, tenté par le néant, et nous reviendrons souvent sur ce point que nous retrouverons un peu au bout de toute aux avenues, n'est-ce pas ? Derrière toutes ces tentations, et derrière même le polymorphisme de la tentation, derrière la tentation de l'éparpillement, nous retrouvons finalement la tentation du néant et de la mort. J'ai peu de mots à ajouter sur l'autre partie de ce polymorphisme, celui qui concerne, qui est dans le temps, cette fois. Nous avions jusqu'à présent surtout parlé de la diversité comme telle, enfin du manteau d'Arlequin, si vous voulez, la diversité des tentations. La tentation, disions-nous, est plusieurs, mais il était bien évident qu'en en parlant, nous parlions par avance du deuxième point, puisque c'est sous la deuxième forme que cette tentation, en général, se présente à l'esprit. En effet, la tentation est naturellement fréquentative. Elle est fréquentative, elle n'est pas seulement plurale, mais naturellement fréquentative, comme l'implique d'ailleurs le verbe même de tenter, tentare, n'est-ce pas, qui, si je ne me trompe, le fréquentatif, littératif de tenéo, n'est-ce pas, du verbe tenéo. C'est un verbe qui implique la répétition. Tentare implique la répétition, et probablement que la tentation implique la répétition des assauts. Donc, maintenant, il s'agit, comme vous le voyez, non plus tellement de la bigarrure, polychrome, multicolore, n'est-ce pas, de la diversité des tentations, s'adressant à des sens variés, mais il s'agit du renouvellement dans le temps. Car le diable n'est pas seulement, dans nos idées, le virtuose en mimétisme et un simulateur, mais encore, il est celui qui revient maintes fois à la charge dans le temps. Et cette fois, le sage oppose au diable non point le principe de l'unité, mais plutôt celui de la continuité unie de son ataraxie. L'ataraxie, cette fois, ce n'est point simplement d'être au centre, pelotonné au centre, mais c'est encore de vivre d'une manière continue et sans souci de ses assauts. Le diable revient à la charge. Il y a donc, dans la tentation, l'idée de la répétition qui est incluse dans ce que nous disions il y a plusieurs semaines sur le harcèlement, n'est-ce pas, la tactique du harcèlement et la liaison entre la tentation et ce harcèlement naturel. Le diable procède, croyons-nous, par offensives répétées, par assauts successifs, en cherchant, disions-nous, aussi le point faible de nos défenses, en tâtant l'armure de l'homme pour savoir par quel côté il pourra s'insinuer. Mais le tâtonnement, cette épreuve elle-même, s'accomplit dans le temps par une série d'essais successifs, ou encore, si vous préférez d'autres images, qui à vrai dire conviennent moins à ce que je veux dire, on pourrait évoquer les sorties successives d'un assiégé qui recherche la percée, qui cherche à réaliser la percée. Mais il ne s'agit pas d'un assiégé, donc cette image ne vaut pas grand-chose, sinon pour la répétition elle-même. La tentation cherche la percée, le point par lequel elle pourra la réussir. Remarquez que, d'ailleurs, les deux choses, polymorphisme et répétition ou harcèlement, ne vont pas nécessairement ensemble. Par exemple, la tentation pourrait être diverse sans se répéter. Elle pourrait insister, elle pourrait être diverse sans se répéter, comme l'est, par exemple, le manteau d'Arlequin, le bariolet que nous évoquions il y a un instant. Ou inversement, le tentateur pourrait insister et persévérer, mais toujours sous la même forme. C'est-à-dire qu'il y aurait bien la répétition, mais il n'y aurait pas le polymorphisme. Donc on peut concevoir l'un sans l'autre, ou le second sans le premier. Mais bien entendu, ce ne sont que des arguties que je signale pour être clair. En vérité, pour l'homme, la dimension naturelle de la diversité, c'est le temps, n'est-ce pas ? Si bien qu'il est presque impossible de parler de la diversité sans parler du changement, en vérité. Donc, ce qui est vrai, c'est que la tentation de la diversité, pratiquement, pour un homme, c'est-à-dire pour l'être de temps qu'est l'homme, est la tentation du changement, tout simplement. La tentation de la mutation, étant donné que le temps est la dimension toute naturelle de la diversité, et qu'une diversité statique, en acte, n'est pas tentante pour un homme. Elle n'est tentante que dans la mesure où elle est cinétique, n'est-ce pas, où elle est dynamique et cinétique, c'est-à-dire dans la mesure où elle est une proposition de se mouvoir et une proposition de changer. C'est donc toujours la mutation dans le temps par laquelle une qualité se différencie de l'autre. Et bien entendu, pour un homme, la diversité même n'est diverse que par la succession dans le temps. Par exemple, par le fait qu'une qualité se différencie de l'autre en lui succédant, par le renouvellement. Et c'est donc le renouvellement qui lui-même est temporel, qui nous fait sentir cette diversité. Donc le changement et le mouvement, qui d'ailleurs s'accomplit de lui-même dans le temps, qui lui-même prend du temps, vont être les tentations essentielles de l'homme. Et c'est pourquoi c'est le point maintenant qu'il nous faudrait développer encore plus amplement, si je ne craignais d'anticiper sur ce que je dirais plus tard, lorsque je parlerai de l'homme, de l'aventure, l'homme à la recherche des tentations à son tour, et allant les chercher en se mouvant. Si bien que, hors du temps, l'un et le pluriel sont absolument indifférents. Ce sont des catégories de la grammaire. Le pluriel n'est pas plus tentant que l'un, n'est-ce pas ? Ce sont des mots, des concepts verbaux, qui ne signifient rien si on les extrait du temps, n'est-ce pas ? Séparés du devenir, le multiple et l'unité ne sont que des catégories abstraites, et qui ne peuvent avoir rien de tentant pour l'homme. Et c'est pourquoi, de même, il nous faudrait montrer que la résistance de l'homme à cette tentation est toujours dans l'affirmation d'une immutabilité, n'est-ce pas ? Le sage veut être immuable parmi ses propositions du changement. Ainsi, pour résumer ce point, il est bien évident que, quand nous disions le polymorphisme, il fallait comprendre la métamorphose, c'est-à-dire le changement de forme dans le temps, chaque forme succédant à la précédente. Et c'est la métamorphose qui est, en réalité, la véritable tentation. Et c'est elle dont le pluriel est véritablement tentant. Celle par laquelle l'objet devient un autre, et puis un autre, et dans lequel les travesties succèdent les uns aux autres, par des incarnations successives, par des déguisements successifs. C'est cela qui est amusant, c'est cela qui est divertissant, qui est une tentation pour l'homme qui s'ennuie. Par exemple, comme le même qui est tour à tour curé de campagne, garde champêtre, marmiton, vitrier, enfin qui prend, ou une chanteuse qui prend tous les rôles les uns après les autres, un grand chanteur qui est un guerrier, un sage avec une longue barbe et ou un simple figurant. Voilà donc ce qui est amusant pour l'homme. C'est la diversité des incarnations qui se succèdent. Mais naturellement, nous sommes un peu trompés. Nous avons trop regardé des tableaux ensemble. Enfin, nous avons trop médité sur des tableaux. Parce que quand on médite sur des tableaux, eh bien, on voit évidemment, comme c'est l'habitude d'ailleurs chez ces peintres de cette époque, de fixer dans l'espace les moments d'une chronologie, les moments successifs d'une biographie ou d'une histoire. Il arrive bien souvent que le peintre représente ensemble, sur la même toile, et dans un même instant, des moments qui sont des moments successifs, comme on représente la vie du Christ, par exemple, sur la même toile. De la même manière, lorsqu'on nous représente dans une multiplicité de juxtapositions, dans une simultanéité de juxtapositions, les tentations de saint Antoine les unes à côté des autres, on est amené, souvent amené, à oublier le principe de la temporalité moralité. Le fait que ces tentations se succèdent dans le renouvellement et que c'est ce renouvellement qui est indigent pour saint Antoine. Et que, à cet égard, le livre de Flaubert fait sentir plus et mieux que, qu'un tableau. Il y a donc, comme vous le voyez, une recension encyclopédique de tous les péchés. C'est la gamme de toutes les tentations qui est présentée devant nous dans les deux dimensions d'une toile sur ce tableau. Alors qu'en vérité, l'œuvre de la tentation, c'est la succession des épreuves qui harcèlent la conscience l'une après l'autre, provoquant et allumant les sens à tour de rôle, un sens après l'autre, l'un après l'autre. C'est donc toujours le l'un après l'autre qu'il ne faut pas oublier, qui est donc le principe essentiel de la diversité, c'est-à-dire la diversité temporelle. De la même manière, quand nous parlons avec l'Évangile des trois tentations de Jésus, auxquelles Jésus est soumis, ces trois tentations, elles aussi, apparaissent dans leur succession. Elles ont trois propositions qui sont faites l'une après l'autre, la deuxième étant faite lorsque la première a été déclinée, lorsqu'elle a été rejetée. Après l'échec de la première, le diable en fait une deuxième, et puis une troisième. Leur succession n'est donc pas simplement une vision due au hasard, mais elle est une série d'offensives qui sont d'ailleurs couronnées d'un succès, du plus grand échec. Ce sont donc, non pas seulement des formes, ce n'est pas seulement qu'elles s'adressent à des formes différentes de la concupiscence, au désir de la puissance, par exemple, dans le désir de l'hégémonie mondiale, au désir alimentaire, de manger du pain, de transformer les pierres en pain, à des victoires magiques, comme les victoires sur la pesanteur. Il ne s'agit pas seulement de formes de la concupiscence, mais il s'agit de leur succession dans le temps. Eh bien, justement, c'est cela, c'est ce tourbillonnement, c'est ce tournoiement qui donne le vertige à l'homme. Nous avons souvent parlé du vertige, du caractère vertigineux de la tentation, mais le vertige, pour l'homme, résulte de cette succession très rapide d'impressions successives. Là, le diable, dont l'imagination est inépuisable, ne se lasse pas d'inventer de nouveaux tours. Et quand le précédent a échoué, il en imagine à nouveau. Il invente sans cesse, comme dirait l'Évangile, de nouvelles méthodes. Il y a ce mot curieux, bien connu d'ailleurs, et que j'aime bien citer, n'est-ce pas, Schelling le citait souvent, les méthodeiai, méthodeiai tout diabolou, dont parle la lettre aux Éphésiens. De saint Paul, la 6.11, « En dusaste, dit l'apôtre, en dusaste ten panoplian tout eu, prosto dunastai humas stanai, prostas metodeias tout diabolou », c'est-à-dire « revêtez la panoplie de Dieu ». Ten panoplian tout est où? Revêtez l'armure de Dieu, cette armure complète, qui est la panoplie. Revêtez la panoplie divine, afin stenai. Ce mot est très, très intéressant pour nous, car il évoque l'attitude du sage et du saint en but aux assauts et imperturbables, afin de résister. De résister dans l'immobilité aux entreprises, aux méthodes du diable. C'est-à-dire, non point odos, la voie droite, non point la voie de la vérité, or, odos orte, la voie qui mène au vrai, le chemin qui ramènerait directement Ulysse à Ithaque, mais les méthodes des yaïs, c'est-à-dire les zigzags, les crochets qu'on fait dans la rue, au lieu de rentrer chez soi, bien sagement, au lieu d'aller à son bureau, on fait des crochets pour courir les désaventures. Voilà donc les méthodes des yaïs qui sont des menées, des manigances, des voies détournées, et qui expriment en même temps la diversité successive de ces manigances. Le diable est un frégoli, n'est-ce pas ? La tentation a le caractère d'un frégolisme, et l'homme finit par être affolé par le délire kaléidoscopique qui résulte de cette série d'images. Il est affolé par le tourbillon, et il est en proie au vertige lorsque on le fait tourner sur lui-même, pirouetter sur lui-même par l'effet des méthodes yaïs diaboliques, des méthodes diaboliques. En voilà assez sur le polymorphisme et sur le frégolisme dans la durée, sur la multiplicité dans le changement, le mutationnisme, pourrait-on dire. Et il nous faut, avant d'abandonner ce premier chapitre de la tentation, serrer de plus près une distinction qui, sans cela, pourrait prêter à des confusions et dont je n'ai dit que quelques mots la semaine dernière, je veux dire la distinction entre tentation et séduction. Faute de la faire, nous serions évidemment souvent embarrassés et nous paraîtrions même nous contredire. La tentation se différencie de la séduction, bien qu'elle l'implique en un sens, n'est-ce pas, et qu'il soit pas toujours possible de les distinguer vraiment, encore que les mots n'aient pas la même sonorité en français. Par exemple, il est bien clair que les sirènes sont des séductrices, beaucoup plus que des tentatrices. Que le chant des sirènes est une séduction. Ondine, la Roussalka, ce sont des séductrices et non point des tentatrices. D'abord, elles ne sont point tentantes en elles-mêmes. Les sirènes ne sont point tentantes. Elles ne sont pas elles-mêmes l'objet de la tentation. Mais par contre, elles sont séductrices. À l'étage tout à fait inférieur, à l'opposé des sirènes et des ondines, les crapauds, les lézards et les rats et les bêtes horribles et hideuses qui pullulent dans les tableaux du Moyen-Âge. Et ces bêtes sont uniquement des tentations, sans aucune espèce de séduction, un crapaud n'ayant rien de séduisant. Donc voici au sommet la séduction sans rien de tentant et à la base la tentation sans rien de séduisant. Vous devinez que notre propos à nous, notre problème à nous, se situera dans l'entre-deux, dans la partie intermédiaire, qui est à la fois tentante et séduisante, qui participe un peu des deux. Par exemple, comme l'est le serpent de la Genèse. Le serpent biblique est un peu les deux, n'est-ce pas ? Il a un côté qui annonce Hieronymus Bosch, et un autre qui ressemble plutôt aux sirènes. En effet, d'une part, le serpent est un être hideux, c'est pas comme les pires bêtes, comme l'animalité repoussante que Bosch se plaît à nous décrire. Et c'est un animal répugnant, mais en même temps, et par conséquent, il ne peut être au principe que de tentation à l'état pur, sans séduction, mais en même temps, cet animal répugnant prononce des paroles flatteuses, des paroles prometteuses, lénifiantes, sédatives, des paroles agréables à entendre, et dont la musique est douce aux oreilles de la créature. Donc, c'est une bête repoussante, mais la musique de ses paroles est suave. Elle pique la curiosité de l'homme, et elle annonce, elle fait miroiter devant l'imagination de l'homme un avenir prometteur, un avenir dans lequel la science et l'immortalité ne s'excluront plus, ne seront plus séparés l'un de l'autre, comme nous l'avions indiqué la semaine dernière, dans lequel l'homme ne sera plus sommé de savoir en mourant ou de ne mourir jamais, mais en se résignant à toujours ignorer. Eh bien, cela n'a rien de repoussant. Et c'est un avenir dans lequel l'alternative sera surmontée. Voilà donc trois étages, et je crois que notre étage à nous, celui où nous habitons cette année, c'est plutôt l'entresol, n'est-ce pas, le mezzanine, dans lequel le domaine de la tentation séduisante, de la séduction tentante, dans lequel ni nous n'avons affaire à la séduction à l'état pur, ni non plus à la tentation à l'état pur. Mais d'abord, avant de nous réinstaller dans nos meubles, dans l'étage où nous habitons, montrons de quelle manière la tentation et la séduction aux extrêmes, dans les cas limites, s'opposent l'un à l'autre. Il est toujours bon ainsi d'opposer les cas limites à l'état pur, pour mieux comprendre les degrés intermédiaires ou ambigus, les amalgames dont en réalité on parle. D'une part, il est bien évident que la tentation s'oppose à la séduction par son caractère naturellement plus grossier et en quelque sorte élémentaire, et par ce qu'elle est moins nuancée. Mais déjà, vous devinez que nous avons compris par ailleurs que la tentation est toujours séduisante en fait, parce qu'en fait, elle comporte toujours ses nuances. Mais à la limite, la tentation à l'état pur les exclurait. Elle est surtout énergique et brutale. Elle a en elle-même quelque chose de drastique, d'énergique, qui l'oppose par conséquent aux mille nuances de la séduction. Et par exemple, je dirais volontiers, mais pour prendre des exemples très approximatifs, je sais bien qu'on peut aussi montrer le contraire, mais on aurait moins raison que je n'ai raison en opposant ces exemples, ces objets. Nous choisirions comme symbole d'une tentation le fruit, et comme symbole d'une séduction, plutôt un bijou, par exemple, des diamants, si vous voulez. Nous opposerions donc l'attrait simple du fruit, le fruit à l'état pur, c'est-à-dire objet de fruition, le fruit objet de jouissance, le fruit qui est un aliment, le fruit pour l'homme affamé, pour l'homme altéré, le fruit qui le désaltérera et qui calmera sa faim. C'est donc un attrait élémentaire qui s'adresse directement à l'instinct trophique, à l'instinct alimentaire de l'homme. Et à cet attrait s'oppose l'attrait miroitant du bijou. Les mille feux, comme nous disions, le scintillement des gemmes, le sentiment des pierres précieuses. De la même manière, nous dirions volontiers, et vous m'accorderez ces adjectifs, qui vont bien dans la même ligne, que la tentation est plutôt captative, et la séduction plutôt captivante, ou captieuse, comme vous préférerez, n'est-ce pas ? L'une est plutôt captative, comme l'est le fruit dont nous disions qu'il s'adresse directement et énergiquement à l'instinct trophique de l'homme. Et, en général, la tentation s'adresse toujours à l'instinct d'appropriation, à l'instinct annexionniste de l'homme, ou impérialiste, à l'instinct pléonexique, à la passion d'avoir plus et davantage. L'objet tentant est celui qui sollicite l'ingestion, la manducation, l'appropriation et finalement l'assimilation. L'assimilation unitive à notre substance, comme l'est par exemple la tentation sexuelle. Ainsi, qu'elle soit trophique ou sexuelle, dans les deux cas, la tentation est un appel direct à la convoitise de l'homme en vue de l'ingestion, de l'assimilation ou de l'union de essence, de l'union d'ontique, qui s'exprime dans la fruition du fruit, et que l'on sent déjà dans l'appétit de jouissance. Et au contraire, nous disions que la séduction n'est point captative, comme la séduction d'un fruit, mais qu'elle est plutôt captivante, c'est-à-dire qu'elle enveloppe l'homme dans ses filets, dans les filets de la magie. Elle est moins pénétrante que enveloppante. Ce qu'elle sollicite de nous, c'est moins d'être dévoré, n'est-ce pas ? Les sirènes ne demandent pas à être dévorées, n'est-ce pas ? Et elles ne sont pas convoitées en elles-mêmes. Pas un seul instant, on ne voit que Ulysse est tenté par les femmes que sont les sirènes. Mais il écoute leur voix mélodieuse qui les détourne de sa route. Ce qui est d'essence, comme nous le montrerons plus tard, un peu impalpable et pneumatique. Et ainsi, l'homme est plutôt enveloppé par un art de persuader, comme nous le montrerons également, par une magie. Ce n'est plus comme tout à l'heure l'homme de désir qui se jette sur sa proie. Mangera-t-il ou ne mangera-t-il pas ? Cueillera-t-il ou ne cueillera-t-il pas le fruit défendu ? Voilà la question simple et élémentaire que nous nous posons quand nous voyons Adam et Ève dévorer des yeux à l'avance ce fruit qui, lui, dans les feuillages sombres et qui lui fait envie. Il s'agit de savoir s'il se jettera sur sa proie et sur l'aliment en le cueillant. D'ailleurs, vous remarquerez, ce n'est pas vain de faire un peu de grammaire par moment, que carpo, en latin, qui veut dire cueillir, et carpos en grec, qui veut dire un fruit, sont probablement de même racine. Sans ça, je ne m'expliquerai pas, ça se ressemble tant. Le carpere des latins et le carpos des grecs, l'un qui veut dire, qui exprime la cueillette de la volupté, l'autre qui se rapporte, qui est le mot par lequel on désigne le fruit, sont de même nature, c'est-à-dire tous les deux se rapportent à un acte qu'on peut appeler, d'un vilain mot grec, mais facile à comprendre, un acte apollonstique. Apolloein, chez Aristote, enfin en grec en général, veut dire jouir, et Aristote parle souvent d'une vie inférieure qu'il appelle apollostikos bios, la vie de la jouissance, par opposition à la vie de l'esprit. Eh bien c'est cet acte apollostique, cet acte de jouissance, que sollicite en lui-même le fruit, c'est-à-dire l'acte par lequel l'homme se rend l'aliment consubstantiel à sa propre substance, ou coessentiel à sa propre essence, mais consubstantiel va probablement mieux. Eh bien, à cet désir de captation de l'objet tentant s'oppose l'enveloppement de l'homme par ce que nous appelions la nasse ou les filets de la séduction, les filets captieux de la séduction, tels que l'est par exemple une musique ou un parfum. Nous étudierons aussi, le moment voulu, pourquoi la musique et le parfum sont volontiers les organes de la séduction, n'est-ce pas ? La femme qui ne désire pas tellement tenter que séduire, eh bien, usera volontiers du parfum qui enveloppe, qui est l'enveloppement de la présence, qui a le caractère diffus de la présence, le caractère atmosphérique, en quelque sorte, de la présence, et qui enveloppe l'homme séduit, de même que le fait la musique. ce qui revient un peu au même. C'est une autre façon de présenter, en somme, la même distinction que tout à l'heure je faisais entre la captation et la musique captivante, ou le parfum captivant, ou la femme captivante. Nous dirons que, dans la tentation, l'homme est tenté par l'objet lui-même. Il est tenté par la chose tentante. Il est tenté par la chose concrète, par la pomme. La pomme, objet de consommation, par un bel ananas, par une grappe de raisin, n'est-ce pas, ou par la femme en soi. Enfin, il est tenté par un objet, ou par une personne devenue objet. Et quant au tentateur, nous avions montré, il y a plusieurs semaines, le tentateur, il n'est là que pour faire l'article, n'est-ce pas. Il n'est là, en somme, que pour faire valoir l'objet tentant, pour déclencher la cueillette, ou pour déclencher l'achat. Quand c'est un charlatan qui veut faire vendre. Et par conséquent, vous voyez que, en somme, la tentation comporte un tentateur professionnel qui, en lui-même, n'a rien de tentant. Le tentateur, en lui-même, n'est point tentant. Est un tentateur professionnel en ce que sa spécialité est justement de tenter. Ce n'est pas, en somme, sa personne qui est attrayante, pas plus que le serpent n'est attrayant. Donc, le serpent n'est là que pour faire valoir l'attrait du fruit. De même que le bonimenteur. Le serpent, le Satan, n'ont aucun charme par eux-mêmes. Et Satan ne joue pas de ses charmes, mais il joue de l'attrait et des prestiges, des pouvoirs qu'il fait miroiter aux yeux de Jésus. Donc, il y a, disions-nous, un dédoublement des rôles, qui fait que la tentation, en cela, s'oppose d'une manière très profonde à la séduction. La séduction est en effet infiniment plus personnalisée. Elle est inhérente à la personne par opposition au caractère impersonnel, générique et toujours un peu conceptuel de la tentation. Nous disions que le tentateur n'est pas lui-même tentant. Mais la séductrice, elle est séduisante. Le séducteur est en même temps séduisant. Le séducteur est personnellement séduisant, bien que le tentateur ne soit pas personnellement tentant. C'est que la personne elle-même n'est plus à son tour l'objet tentant, mais elle est un appel pour nous, et comme nous le disions, un appel enveloppant. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette opposition lorsque nous étudierons l'entre-deux, nous reviendrons à l'entre-deux que nous avons quitté. Mais il n'est pas mauvais encore de continuer cette opposition et d'en montrer quelques autres aspects qui seront aussi très instructifs pour nous. La tentation limite, c'est-à-dire la tentation à l'état pur, la tentation non séduisante, et disions-nous, un appel immédiat, un appel drastique et énergique à l'instinct. Elle est un appel direct à l'instinct biologique, un appel cynique, si vous voulez, à cet instinct, et un appel cynique dans lequel le vice vient de ce que il ne s'agit justement pas d'un chien, mais il s'agit de l'homme, n'est-ce pas ? Il s'agit de l'homme, et c'est cela qui donne sa nuance à ce cynisme. C'est justement la préférence que l'homme donne à l'appel à l'instinct. Et l'invitation qui lui est faite de préférer l'instinct, c'est cela qui est une tentation cynique. C'est la préférence expresse qu'un homme donne à des valeurs qui ne sont pas des valeurs humaines, mais qui sont plutôt des non-valeurs, qui sont animales. Personne n'accuse, c'est l'homme seul qui peut être cynique, bien entendu. Personne n'accusera un caniche d'être cynique, puisque un caniche est un chien. Son essence est d'être un chien. Il ne peut donc pas être cynique. Mais l'homme peut être cynique, en ce sens que l'homme peut faire le chien. L'homme qui n'est pas un chien peut faire le chien. Et c'est ça le cynisme. De même que l'angélisme consiste à faire l'ange quand on n'est pas un ange, ce qui est le cas de l'homme. Les anges ne peuvent jamais être coupables d'angélisme, mais par contre, les hommes peuvent s'en rendre coupables qui ne sont pas des anges. Donc, de même que l'angélisme, c'est de faire l'ange quand on n'est pas un ange, c'est-à-dire quand on n'est qu'un homme, de même, le cynisme, c'est de faire le chien quand on est un homme. Par exemple, d'aboyer. N'est-ce pas, quand on a le langage articulé pour parler, de marcher à quatre pattes quand on est bipède. Voilà ce qui est faire le chien. Ce qui est donc une des formes du cynisme. Eh bien, c'est cela qui est, en somme, la tentation qui se présente à l'homme. c'est donc de renoncer, en somme, délibérément à l'exercice de la partie logistique, ce que les Grecs appelaient la partie logistique de notre être, c'est-à-dire de renoncer délibérément à l'exercice de la raison, de la pensée, de la conscience, de la phronesis, ce qui est une manière de suicide, un demi-suicide, un sacrifice délibéré que l'homme fait au moins de la moitié de son être, ou en tout cas de la moitié la plus importante de son être. Comment peut-on être tenté par une pareille chose ? Donc, lorsqu'il s'agit d'un être spinal, d'un être réduit à la sphère des instincts, et il est bien évident que le cynisme n'existe pas. C'est donc quelque chose qui est le privilège d'un homme doué de conscience et par conséquent capable de honte, capable de pudeur, capable de conscience, donc de mauvaise conscience, et dont la vie n'est pas seulement, ne s'appelle pas seulement bios, mais encore zoé. Bios, c'est-à-dire la vie des biologistes, la vie biologique et celle des instincts, zoé, c'est-à-dire la vie spirituelle. L'homme n'est pas seulement bios, mais zoé, et c'est pourquoi l'homme peut être cynique. Il est donc attiré par une autre vie que zoé, par une autre vie que la vie spirituelle. Voilà donc la préférence perverse, la préférence vraiment contre nature. Si ma nature est un être raisonnable, tout au moins, cette préférence est contre ma nature raisonnable, et même est une préférence monstrueuse, puisque c'est une préférence pour la chose non préférable, et une préférence délibérée que l'homme formule pour la chose qui n'est pas préférable, qui n'est pas digne d'être préférée, pour celle qui n'a point de valeur, pour ce que nous appelions la vie apollostique, qui est sans valeur. Voilà donc le scandale du vice, et la raison de la proposition qui nous est faite. La tentation apparaît donc avant tout comme cette sollicitation qui est représentée depuis que l'homme est un homme, depuis toujours. Cette représentation nous est montrée sous les espèces d'une rechute dans l'animalité. C'est la rechute dans l'animalité, toujours. Si en effet, pour l'homme, l'animal est l'être vivant, dans lequel la cérébration n'introduit pas le principe du temps, du souci, de la prévoyance, de la mémoire et en général de la conscience. Et voilà pourquoi il y a tellement de bêtes dans le tableau du Hieronymus Bosch, et d'ailleurs pas seulement chez Hieronymus Bosch, même lorsque nous consultons Épictète, nous voyons que Épictète, dans les entretiens, je vous renvoie notamment au chapitre 3 du livre 1 des entretiens, et notamment à la fin de ce chapitre, Épictète montrant les deux parentés de l'homme, à savoir sa parenté divine, qui le rattache à Zeus, aux immortels, et sa parenté animale, qui le rattache aux bêtes rampantes, aux poissons, aux fauves et aux quadrupèdes. Lorsqu'il parle de ces deux parentés, il veut nous montrer comment l'homme qui déroge de sa dignité, l'homme qui condescend vers l'animalité, devient à son tour comme ces bêtes. Voyez, diatribaille des entretiens 1-3. Il devient, en s'inclinant devant sa parenté animale, il devient un loup par sa perfidie insatiable, et il devient un lion par le dérèglement de sa violence, et il devient un renard par la ruse. Chacune des formes de l'instinct, le dol, la violence et l'insociabilité, la perfidie, la déloyauté, sont hypostasiées dans une bête, dans un animal, dans une des formes de l'animalité. Vous savez, et je l'ai montré la semaine dernière, de quelle manière pullulent les bêtes hideuses, dont la Tentation de Saint-Antoine, et comme si elle ne suffisait pas, encore, l'imagination du peintre en invente de nouvelles. Il invente des monstres, des associations entre des bêtes encore plus répugnantes que les bêtes connues. Ainsi, dans le cas de la Tentation, comme vous le voyez, le moraliste se donne la partie belle, en somme, puisqu'il nous montre, il nous décrit le vice comme particulièrement répugnant. Et en réalité, l'homme qui se laisse tenter ainsi par cette animalité de sa nature, et l'homme pensant et conscient qui incline vers la matière de cette manière, est sous une autre forme, comme nous l'avions annoncé il y a un instant, en parlant du pluriel, un homme tenté par le néant, est une manière de se nihiliser lui-même, non point de s'anéantir entièrement, mais en tout cas de nihiliser son essence humaine, d'annuler l'hominité de sa nature, d'annuler ce qui fait en lui un homme. Donc, s'il ne s'anéantit pas complètement, tout au moins, il supprime ce qui est en lui proprement humain. Il est donc, à sa manière, tenté par le néant, et d'ailleurs tenté de disparaître en tant qu'homme. En dernière analyse, la tentation est toujours, d'une manière ou d'une autre, une tentation de disparaître. Disparaître dans le pluriel, disparaître en marchant à quatre pattes, en se vautrant dans la fange, en cédant au géotropisme et à l'inclinaison, à la pesanteur, à la gravitation de la matière et toujours en descendant par une véritable dégradation. Et ou encore s'annihiler en éprouvant même un plaisir de choix à braver la honte de la dégradation. Et car dans la tentation, il s'agit pour le tentateur d'être plus fort que la résistance de la honte, d'être plus fort que la mauvaise conscience elle-même, mais il peut arriver que le plaisir de faire une chose honteuse ajoute un ragoût au goût du péché. Ajoute un attrait supplémentaire au péché, le plaisir de faire la chose honteuse, le plaisir de violenter la mauvaise conscience. Évidemment, c'est de nouveau un plaisir de désespoir, une tentation du néant et une tentation de la désespérance, et par conséquent, en vérité, c'est une des formes du nihilisme moral. L'attrait de la tentation, prise dans deux sens extrêmes, c'est l'attrait de la nihilisation, c'est-à-dire du nihilisme moral et de l'adonnement complet de l'homme à l'absurde.